L'émission Mangeuse sur Boulevard 102.1, il est présentement midi 42 minutes. On rejoint notre collègue Mathias Turcotte qui est venu nous voir en studio concernant le budget de la Ville de Québec. Mathias, t'as assisté au huit lots, t'as assisté à la conférence de presse, t'as-tu les yeux dans la graisse de vine d'avoir vu des fichiers Excel toute la matinée?
Ah, mais mettons c'est une bonne matinée. La présentation du budget, bien tu ça. Commences à 8h30 avec des colonnes de chiffres à plus finir. On te fournit un document de 280 pages qu'il faut que tu décortiques le plus rapidement possible, mettons. Là. Fait que non, ça a été une bonne matinée, ça a roulé.
Check Pascal, moi je suis full heureux, regarde, là, j'ai des feuilles avec des chiffres, je vais pouvoir analyser.
Y a-tu un apron?
Je vais lire ça ce soir après avoir animé le cocktail bénéfice du Patro Laval. Ah, ça va être le fun, ça va être le fun, ça va être le fun. Peut-être voir le maire d'ailleurs à soir, il va peut-être être là.
Probablement, je suis certaine, il est en entrevue à 16h15 dans Gravel, dans le retour.
Exactement. Mathias, qu'est-ce qu'on retient de ce budget-là? On savait pas mal déjà que la hausse de taxes était de 1,9% résidentiel, 1,4% commercial. Aujourd'hui, ça avait flirté dans les médias. Il va y avoir des coupures. Ça va nous faire économiser une quarantaine de millions. Bref, y avait-tu autre chose à savoir?
Bien, pour moi, les deux points principaux, c'est vraiment la hausse de taxes. Puis je vais apporter quelques bémols sur ça. Parce que tous ceux qui sont bien contents qu'on garde la hausse de taxes à 1,9%, ça se peut que vous ayez des mauvaises surprises dans quelques instants.
Moi, ils m'ont dit 62 piastres à Beauport, ta maison de Jeff Fortin, avec comment qui est évalué. Fait que moi, je donne pas plus que 62 piastres.
Ouais,
Pascal, maintenant, aide-moi.
Ça se peut que... En fait, tu vas donner plus que 62 piastres, Jeff. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, avec la hausse de taxes de 1,9%, c'est une moyenne sur la ville de Québec au complet. Ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est qu'on mettait fin à la taxe supplémentaire pour les dettes d'ex-ville. On était censé le faire dans 2 ans, mais là, on y met fin tout de suite. Cette taxe-là sur les dettes d'ex-ville qui date depuis la fusion, là, donc ça fait une vingtaine d'années, ça faisait en sorte que certains secteurs de la ville payaient plus cher, un plus haut pourcentage de taxes que d'autres secteurs de la ville. Là, on uniformise le tout officiellement. Fait que tout le monde va payer le même montant de taxes.
Fait que l'année prochaine, quand Bruno Marchand va me dire c'est 1,9%, là, ça va être 1,9% pour l'ensemble de la ville.
Exact, mais cette année, c'est
bonne
pas
nouvelle.
Ça. Puis, ce qui est intéressant dans ce budget-là, c'est que ceux qui restaient à équilibrer, justement, au niveau des taxes, c'était l'ancienne ville de Québec et Val-Belair. Si on se concentre du côté de l'ancienne ville de Québec, on parle de 40% de la population de Québec. Mm-hmm. Okay? Le fait qu'on enlève cette fameuse taxe-là pour les dettes d'ex-ville, ça fait en sorte que pour l'année prochaine, les habitants de l'ancienne ville de Québec, donc 40% de la population, va avoir une baisse de taxe de 0,6%.
Oh, très intéressant pour eux. Mais là, Antonine Pascal, on le sait bien. Ça vote pour Marchand, ce monde-là.
Ça veut le tramway?
Ça veut le tramway?
Ben,
hey, tu le vois comme moi, Pascal, c'est vrai, là?
Ben, pas nécessairement, mais...
Non, tu le vois comme...
Mais l'affaire est classée, par exemple. On peut plus commencer à avoir un débat nouveau là-dessus.
Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Val-Belair qui veut défusionner, eux autres?
Oui, bien, Val-Belair, c'est ça. Également, aussi, on l'enlève. Donc, eux... vont augmenter de 2,9%.
Oh.
Mais là où que le bas blesse, c'est que, étant donné que l'ancienne ville de Québec, tous les habitants dans ce secteur-là baissent de 0,6%, pour arriver à une moyenne de 1,9% globale, donc soit en dessous de l'inflation, ça veut dire que le reste de la ville de Québec, soit 60% des habitants, puis là, je parle à tout le monde qui habite hors ancienne ville de Québec, tous les auditeurs présentement, ça va pas être 1,9% votre augmentation, ça va être 3%, soit 1% de plus que l'inflation actuelle qui se situe à 2% pour la ville de Québec dans la dernière année. Donc, lorsqu'on dit depuis plusieurs jours du côté de Bruno Marchand, on est content, on va avoir 1,9% d'augmentation de taxes, c'est une moyenne, là. 60%, puis je le répète, 60% des habitants de la ville de Québec, ça va être 3% votre augmentation de taxes l'année prochaine.
On écoute le maire Marchand à cet effet sur la raison qui l'a motivé à utiliser la moyenne de l'augmentation des taxes dans ses communications.
Fait que des écarts comme... Tu sais, vous avez raison, existent. Ils ont presque toujours existé dans les budgets, dépendamment des dettes des villes et du moment des remboursements. Fait que cette année, on n'est pas différent. On n'est pas du tout différent. Ça donne que puisqu'on parle de variation annuelle, quand on parle de la croissance sur l'an passé, bien c'est sûr que tous ceux qui payaient une surprime, Val-Belair de façon moindre, et Québec, ont un écart plus grand avec les autres parce que cette surprime-là n'existe plus, leur dette étant remboursée. Fait que pour moi, il y a un, tout est limpide, tout est clair, tout est dit, et on n'est pas, c'est pas comme si on changeait la façon de faire. C'est pas comme si cette année, en 2025, on disait on fait différemment. On a toujours fait ça ainsi. en 2019, je ne me souviens pas d'article qui disait qu'à Vanier, on avait 2 alors que la moyenne était 1,2 ou que Québec payait plus ou que Cap-Rouge payait moins.
L'idée derrière ça, au moins, c'est que ça va être réglé pour l'an prochain. C'est réglé plus rapidement. Moi, je vois ça très positivement. Là, je fais bien des jokes depuis tantôt, mais là, à un moment donné, c'est... au moins, on va avoir mis ce dossier-là de côté. Vous en pensez quoi, vous autres, Antonine, Pascal?
De la hausse de taxes?
Oui, ben, je veux dire du fait que c'est 1,9 en moyenne.
Ben,
mais que là...
la moyenne, ça fait des beaux titres. Puis il y a quelque chose de communication là-dedans. Puis c'est vrai que les gens ne réalisent pas toujours individuellement ce que ça veut dire pour eux. Puis quand ils réalisent, ben, il est trop tard, puis on est passé à autre chose des nouvelles. Donc, bien joué. Tu sais, on parle de 3 % d'augmentation. Ton taux hypothécaire, ça dépend quand est-ce que tu dois le renouveler, mais ça a augmenté. Moi, je viens de repasser, j'ai augmenté de 2 % là, mon taux d'intérêt. Ça paraît, là, ça a une coupe de 100 piastres par mois, là, ça. Là, là. Après ça, la valeur de ma maison a augmenté. Je n'ai rien fait pantoute, c'est juste le quartier. Après ça, il y a eu le boom pendant la pandémie. Tout le monde a acheté des maisons, ça rénove. Tout a augmenté. Donc là, tu rajoutes en plus une augmentation de taxes. Honnêtement, ça commence à apparaître sur le portefeuille des gens. La ville... fait son possible. T'sais, je vois qu'il y a des efforts d'optimisation. Tu te dis, OK, au moins, on fait des efforts d'optimisation. On le sait que les villes ont plus de défis qu'avant, des défis énormes que les municipalités n'avaient pas à gérer auparavant, en termes d'infrastructures notamment. On sent qu'on fait un effort pour que ce soit le moins dur possible, mais à la fin de la journée, pour le payeur de taxes puis le citoyen, ça commence à faire une coupe, pas mal de 100 piastres là, dans sa vie. Là,
moi, je vais peut-être en image politique, là, mais les dernières hausses de taxes ont tellement fait mal et on a tellement martelé que si ça se représentait au prochain mandat d'un maire comme Bruno Marchand, ça n'allait pas passer. Ça va être la dernière fois où on fessait aussi fort. Et je pense qu'il l'a entendu pour cette fois-ci. Puis les coffres, s'il était parti, étaient renfloués de ces taxes-là, multiples, là, toutes différentes, qu'on avait mis dans le même pot. Je pense qu'il s'est dit, OK, là, on a réussi à renflouer les coffres, on va laisser un allègement pour la suite. Il avait dit qu'il allait avec un faible pourcentage, mais honnêtement, il saignait son monde. Il saignait son monde de Québec, puis c'est pas peu dire, je veux dire, c'est toujours le sujet prioritaire au 88-971-1021. Vous en parlez toujours, vous nous donnez des exemples. Bruno Marchand, en termes d'acceptabilité sociale, n'avait pas le choix à ce moment-ci de pas aller trop fort.
Vous en pensez quoi, justement, 418-971-1021? Est-ce que Bruno Marchand a manqué de transparence? Et d'ailleurs, on écoute, il explique pourquoi il ne l'a pas communiqué aux citoyens plus tôt.
Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on aborde le sujet, puis on le fait en toute limpidité. C'est une des premières choses que je vous ai dit. M. Montier en a parlé. On répond à vos questions, on vous présente les choses. Il n'y a rien qui est fait différemment des précédentes années. On vous annonce que c'est la fin des dettes des anciennes villes, et la fin des dettes des anciennes villes a un effet sur ceux qui payaient plus, les gens de l'ancienne ville de Québec, qui est favorable pour eux. Mais on vous a toujours présenté ça de la même façon, même quand Loretteville a arrêté de payer sa dette, même quand Vanier, même quand Sainte-Foy, même quand Sillery a arrêté de payer sa dette. On a rien fait de différent. Puis aujourd'hui, au moment où on dépose le budget, on vous présente l'ensemble des chiffres.
Vous aviez trouvé un beau petit nanos, Mathias Turcotte, les journalistes, hein, parce que, il a patiné, il avait mis ses patins sur le taux de taxation, M. Marchand.
Puis il faut dire, il y a une grosse différence, parce que lui, il nomme de nombreux petits arrondissements. Puis fait que ça fait en sorte que, oui, t'effaces la taxe, justement, de l'ex-dette des villes dans ces arrondissements-là, mais l'impact qui se fait ressentir sur le reste de la ville n'est pas aussi grand. Là, on parle de 40% qui vont avoir une baisse de taxes, puis l'autre 60%, ben, ils n'ont pas le choix d'aller pallier pour ça. Donc, une augmentation de 3%, ça fait une différence majeure. Puis là où que, ben, de mon côté, j'ai peut-être un léger problème, c'est que ça... Oui, l'information a coulé dans les médias. C'est pas lui qui l'a coulé un peu, ben, en tout cas.
Bon, encore là, Antonine, t'as déjà travaillé dans des bureaux. Les médias, on trouve pas toujours tout.
Non.
Ouais, mais des fois, ça arrive pas par hasard.
Mais mettons qu'on donne un bénéfice du doute puis que c'était pas de son vouloir de couler de 1,9% puis qu'il n'y a pas le choix d'en parler. Ça reste que ça fait plusieurs jours qu'un message qui véhicule dans les médias, c'est on est à l'écoute des habitants de Québec. On a maintenu ça bas, puis ça reste bas, là. C'est en dessous de l'inflation. Il a respecté sa promesse sur la moyenne de la taxe, il faut le préciser. Mais ça reste que de parler à ta population de la ville au complet en disant « On a gardé ça bas à 1,9 %, puis au final, plus que la majorité se réveille avec une hausse de taxe de 1 % au-dessus de l'inflation, je trouve qu'il y a une certaine problématique là. »
Commentaire ici, j'ai déjà été col bleu. Si vous sauriez le nombre de jours où j'ai été payé en me promenant en camion car la température ne me permettait pas de faire l'ouvrage en plus d'être payé, j'usais un véhicule et l'essence, les contribuables payent pour cela et faut faire justement. Donc ça explique un peu, puis on va venir justement parler de l'optimisation. Moi, honnêtement, là, je suis pas du tout dans le dans la partie où je déchire ma chemise. Je regarde ça, je suis content qu'on harmonise enfin les taxes, qu'on le fasse 2 ans avant. On a diminué la dette de 9 millions encore une fois. Ça, je suis très content. C'était une cible qu'on voulait respecter. Alors, tu sais, moi, je me dis, enfin, le travail est fait, on peut juste regarder par en avant.
Moi, j'ai une question pour vous. Je voudrais votre avis. Est-ce que vous pensez que le résultat électoral de Bruno Marchand, puis l'arrivée d'une nouvelle opposition, c'est une opposition mm-hmm. Respect citoyen un petit peu plus à droite, est-ce que ça va avoir un impact sur ce que Bruno Marchand va nous présenter dans les prochains mois et sur ce budget-là, à votre avis, est-ce que ça a eu un impact?
Non.
Toi, c'est non, Pascal, pourquoi?
Parce que je pense qu'il est majoritaire, l'opposition était déjà pas appréciée n'était pas assez appréciée, du moins. Même, je pense que M. Lachance aurait aimé être apprécié plus que ça. Ça a été une élection un petit peu gagnée par la faible opposition. Alors, mm-hmm. pour Bruno Marchand, il va aller de l'avant, même s'il se mettait des œillères, il n'y a pas grand monde qui s'opposerait à ça, on comprendrait. Malheureusement, puis c'est là où il faut qu'il fasse attention à son attitude. On en parle depuis le début. Mais il a vraiment le chemin ouvert.
En fait, ma question avait deux volets, parce que si... Il peut être influencé par sa grande victoire, en fait, dans son attitude.
Il va l'être, oui. Il va l'être.
Oui, moi, vois-tu, je me situe complètement ailleurs. Moi, je pense que Bruno Marchand a beaucoup appris de ses 2 premières années à la mairie de Québec. Ça a été tough. Il s'est fait retirer le projet de tramway par le gouvernement. Il a chuté énormément dans les sondages. Il a échappé Saint-Roch. Il y a eu beaucoup de dossiers mal gérés dans ces 2 premières années-là. Mm-hmm. Dans les 2 dernières années, je l'ai vu se transformer. Je l'ai vu être plus proactif, être plus à l'écoute. Et je trouve que ça représente un peu ce nouveau Bruno Marchand-là, dans le sens que on avance justement l'harmonisation de toute la ville au complet pour essayer de faire en sorte d'arrêter cette fameuse coupure-là entre le centre-ville et les banlieues. On continue à rembourser la dette et ça amène au point que Mathias voulait nous parler. On fait des efforts d'optimisation.
Mais une parenthèse, je suis tellement d'accord avec toi.
Ouais.
Sauf qu'une grande majorité comme celle-là, c'est sûr, ça peut influencer. La seule chose, c'est qu'il doit regarder dans son rétroviseur. Puis ça, il s'est tellement fait marteler là-dessus qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Ça aussi, il est conscient.
C'est un excellent point. Excellent point.
Juste pour rajouter un peu sur les taxes, parce qu'on a eu un texto intéressant qui est rentré. La question de Christian. Pourquoi il augmente la taxe de ceux qui n'ont plus de dettes? Il ne comprend pas la logique derrière. En gros, si je peux un peu mieux vous l'expliquer, c'est qu'auparavant, l'ancienne ville de Québec payait plus de taxes, donc un plus haut taux de taxes en raison d'une dette qui avait été laissée par l'ancienne ville. Là, on remonte au début des années 2000. Donc, les habitants de ce secteur-là en particulier payaient plus de taxes en raison de ça. La raison pourquoi il y a une baisse de taxes, c'est pour venir prendre cette taxe-là qui était supérieure et la rendre égale aux autres qui étaient inférieures. Puis que malgré le fait que les autres taxes ont continué d'augmenter, il fallait baisser la taxe pour rendre le tout égal partout à travers la ville de Québec.
Donc, c'est pour cette raison-là qu'on avait encore ces écarts-là et qu'on les aura pu. Optimisation, 47,5 millions d'économies, coupure de 63 postes. On prévoit du mouvement de personnel, 15% la baisse des frais administratifs. On parle dans la location, les dépenses automobiles, les frais de repas de location, etc. Aurais-tu pu faire ça avant?
Bien, c'est toujours ça la question. Puis d'ailleurs, j'ai reçu la réponse. J'ai pas pu assister au point de presse de l'opposition, mais j'ai reçu leur réponse par rapport à ça, qui disait que justement, ça prouvait qu'il y avait du gras à couper puis qu'on aurait pu couper plus tôt puis et tout. Puis justement, on a posé la question à Bruno Marchand. De son côté, ce qu'il précise, c'est que c'est un choix à faire ou non, mais que chaque coupure fait quand même mal.
C'est que si on fait pas de coupure, les gens disent « vous osez pas couper ». Si on coupe, la preuve qu'il y avait du gras, alors... Je vous le dis, là, je vous le redis, il n'y a pas de coupure qui fait pas mal. C'est pas vrai, là. Moi, je refuse ces discours des administrations publiques qui disent « on va couper, mais ça paraîtra pas dans le service aux citoyens ». Puis là, vous allez conséquemment me demander « OK, où ça va paraître? » Hein, c'est ça la question. Puis oui, ça va paraître. Oui. Je vais vous donner des exemples. On va avoir des choix à faire en loisirs. On ouvre des patinoires réfrigérées, mais il va falloir rationaliser certaines patinoires extérieures qui sont moins utilisées. Ça fait mal. C'est pas ça qu'on veut, mais oui, il va falloir rationaliser certains choix. La patinoire du Berger réfrigérée, on va probablement devoir la reporter à 2027. Si vous me demandez si c'est mon idéal, non. Mais son ouverture va probablement se faire en 2027. Pourquoi? Parce qu'on a des choix quand on rationalise, on a des choix à faire et il y a des choses qu'on doit reporter. Couper 60 postes, là, en attrition, même si c'est en attrition, ça a l'air simple de même, là, c'est vraiment compliqué. Parce que les gens voient nos nombres de postes augmenter, puis disent « Ah, la ville augmente, oui, mais n'oubliez pas qu'on a chaque année de plus, depuis 3 ans, 13 000 citoyens de plus, qui, eux autres aussi, demandent des services. »
Ça, c'est un bon point au niveau du nombre de citoyens. Parmi ce qui va être coupé également, on parle de plus de temps pour ramasser la neige. La ville veut économiser 3 millions dans des opérations de déneigement. Puis tant qu'à être dans les coûts, là, sachez que le coût de recharge aux bornes électriques va passer de 1,50 à 2 $. Le coût de stationnement sur rue de 3,25 à 3,50 $. Et les frais de remorquage de 80 $ à 112 $. Et pour les propriétaires de terrains vacants, vagues, non desservis, bien, il va y avoir également une augmentation de taxes pour eux.
Oui, donc justement, l'augmentation de taxes des terrains vagues desservis, c'est quand même beaucoup d'argent que la ville va ramasser là. En gros, c'est des frais de taxes de base. La ville, le gouvernement du Québec, il y a de ça quelques années, a donné droit aux villes d'augmenter jusqu'à 4 fois ça. Puis la ville de Québec l'a fait par palier, il a doublé, par la suite triplé. Et cette année, on est tombé aux 4 fois le taux de taxes de base pour ces terrains-là. C'est environ une moyenne de 5 000 $ de taxes par terrain. Toutefois, ce qu'on dit, c'est qu'il y a certains terrains qui ont vraiment des taxes extrêmement, excessivement élevées, là, 50 000, 100 000 $. Fait que c'est une moyenne de 5 000, mais c'est pas tous les terrains qui vont avoir 5 000 de taxes. Du côté du déneigement, là, tu l'as précisé, donc le ramassage de la neige qui pourrait un peu plus tarder, on va revoir l'efficacité, revoir comment, à quelle fréquence ces différents camions de ramassage passent. Mais pour le déblayage, on ne touche pas à ça. Et je tiens également à préciser qu'il va y avoir 700 000 $ de moins pour le projet Vacances-été, donc les camps de jour. On dit que ça ne va pas nécessairement être une hausse de tarifs. Là. J'ai bien hâte de voir tout ça. Là. On nous a dit ça.
Oh, on va sûrement couper dans les sorties à l'extérieur. Ben, la Ville de Québec donne un montant pour les sorties à l'extérieur pour chaque camp de jour. Donc, j'ai l'impression qu'on va garder les enfants, même le camp de jour, qu'on va faire des activités moins chérantes. Fait que le village vacances, Val-Cartier, ces trucs-là, ben les enfants devront y aller avec leurs parents. On n'a pas y aller du tout. Là. C'est ce qui va je trouve que ça serait la place la plus logique là, à couper pour ne pas augmenter le coût parce que Québec, quand même, la ville que le camp de jour coûte le moins cher. Puis ça, c'est intéressant pour les familles défavorisées, honnêtement, pour les organismes communautaires.
Juste pour finir, un dernier mot sur la dette nette consolidée qui continue de baisser. Là, on passe de 78,9% à 78,6%. Donc, pas une grosse baisse, mais quand même une légère baisse. Et également, le projet de tramway qui est enclenché à partir de cette année. Ben, qui est enclenché à partir de cette année, qui est enclenché plus vigoureusement à partir de cette année. Donc, 347 millions à partir cette année dans le projet de tramway. C'est l'une des plus grosses années. Donc, justement, on commence officiellement vraiment les gros travaux pour ce projet.
Puis, tu sais, je vais être plate, mais ça fait 2 ans que je le dis sur les ondes. Le gros à couper dans l'administration de la Ville de Québec, il y en a très peu. À l'heure actuelle, la masse salariale de la Ville de Québec est de 35,6% par rapport au budget. Une organisation, normalement, doit toujours être en bas de 40%. Donc, on est très bien positionné. La 2e des plus grandes villes au Québec en termes de positionnement de frais administratifs. À titre de comparaison, Lévis est à 44% de masse salariale. Donc, il y a vraiment un écart flagrant entre les deux villes. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Antonine et Pascal, mais moi, même si Stéphane Lachance déchire sa chemise en disant « Hey, vous voyez, il y avait du gras à couper. » Et moi, là, c'est plate. Ça fait 2 ans que j'étudie les états financiers de la ville. J'en vois pas beaucoup de gras à couper. Je trouve que le 47,5 millions qu'on fait, c'est un très bon exercice d'optimisation.
Mais tu viens de le dire, ça fait 2 ans que tu étudies les états financiers de la ville. Ce que beaucoup de gens ne feront pas. Et c'est comme une incantation en politique. Couper dans le gras, couper dans le gras. Après ça, tu te dis, oui, mais quoi et comment? Ah, vous allez voir quand je serai élu. Tu sais, c'est toujours un peu la même chose. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui vont croire Stéphane Lachance quand il va dire, vous voyez, il y avait plein de gras coupés.
Oh, il y a sa crowd. Ça, on ne peut pas faire changer les choses. On le voit un peu. Je trouve que la crowd de Stéphane Lachance me fait penser à celle d'Éric Duhaime ou encore à celle de Pierre Poilievre ou à celle que je pourrais donner des exemples. Dans ce genre de politique-là, les gens vont suivre leur personnalité politique.
Juste rajouter toutefois que j'ai reçu par communication de Stéphane Lachance justement, qu'il a dit que c'est le moins pire des budgets de Bruno Marchand depuis son arrivée
c'est
en poste.
La chance.
Il dit qu'il lui donne une note de 6 sur 10.
Exactement.
C'est-tu un compliment de ça?
Peut-être, je sais pas. Stéphane Lachance va être avec nous demain matin, 8h20. On rappelle le maire de Québec dans Gravel dans le retour à 16h15. 230 postes à l'heure actuelle à la Ville de Québec qui sont suspendus. On espère récupérer 23 millions avec ceci. Luc Monti nous explique c'est quoi ces postes-là suspendus puis comment qu'on va faire ça?
Oui, mais ça va être... on ne paiera pas ces salaires-là dans l'année, mais ce n'est pas encore déterminé lesquels d'entre d'entre ces postes vont rester puis vont être abolis. On va s'en servir peut-être pour abolir d'autres postes l'année prochaine, mais il faut examiner chaque cas. Là. Tu figures comment... C'est quoi l'impact des...
Pour l'instant, c'est des postes vacants, donc vous les payez pas.
Ça va rester des numéros de postes, mais non payés.
OK. Puis ça pourrait se traduire par des...
Puis là, c'est là qu'il faut faire l'examen, comment on change nos processus, puis comment on peut éviter, disons, des rembauchés, ou bien si de besoin, là...
Donc, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que 230 postes présentement qui sont laissés en suspens à la Ville de Québec, c'est-à-dire qu'on n'a pas remplacé. Si on revient à l'automne dernier, quand Bruno Marchand avait dit « je fais un gel d'embauche à la Ville de Québec ». Donc, gel d'embauche, c'était pas nécessairement de dire « j'en embauche plus », mais c'était de se poser la question à chaque fois que quelqu'un quitte. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça fait en sorte que 230 postes sont suspendus. Et là, Mathias, ce que je comprends, c'est qu'on va l'étudier de façon exhaustive et on souhaite, en bout de ligne, peut-être pas en couper 230, mais par exemple, là, je donne un exemple fictif, en couper 140 qui va nous donner 23 millions d'économies.
Oui, bien, on va étudier quels postes qu'on peut se permettre de couper puis quels postes qu'on peut ne pas se permettre de couper. Je pense que c'est la bonne manière de faire. Il y a un texto qui vient de rentrer, couper au RTC. C'est juste un dernier mot là-dessus. Ouais. Parce que le budget cette année pour le RTC, c'est 200 millions. L'an dernier, c'était 299 millions. Donc, on parle de 99 millions de moins. Ce qui est quand même une baisse de 33%. Mm-hmm. C'est énorme. En gros, c'est surtout dû au garage Newton. C'est ça l'explication
ben oui, c'est
qu'on
vrai, qu'on ne construira pas finalement, en effet. Donc, dans les plans, puis on y va rapidement, plan d'investissement 2026-2035. Est-ce qu'on a parlé de Saint-Roch? Parce que je ne le voyais pas dans les documents que tu m'as envoyés.
On y a fait mention à la fin, mais on a dit qu'on était encore en train de construire tout ce qui allait bâtir le projet. Mais okay. Oui, c'est dans les plans.
Parfait. Pascal CV, tu penses quoi du budget Marchand?
Je pense que c'est une belle tablée pour commencer son mandat. Ben moi, c'est plus des gros dossiers comme le RTC, Saint-Roch, mm-hmm. Qui vont probablement me motiver à commenter un petit peu plus. Mais pour l'instant, je pense que le fait d'avoir laissé un souffle aux citoyens au niveau de la taxation, là, qu'on en dise quoi qu'on souhaite, il y a un souffle qui a été laissé et c'est la grande demande de tous les citoyens.
Exactement. Il y a Steve qui nous écrit, tu viendras passer une journée avec moi, tu vas voir qu'il y en a du gras à couper. Ah, ça, je le crois, Steve, il y a du gras à couper dans toutes les organisations. C'est juste qu'à l'heure actuelle, en termes de frais administratifs, la Ville de Québec se classe quand même très, très, très bien. Pascal, on a un concours avec notre application, nous autres. Hein? Puis là, ça, c'est le fun, là, parce que on le rappelle. Télécharger notre application sur App Store, Google Play Store, c'est le meilleur moyen de nous écouter. Vous nous échapperez jamais. Puis en plus, avec notre nouvelle application, tu reçois un appel, tu fermes ton téléphone, pouf, Boulevard joue encore.
C'est super simple, en fait. Puis elle a été conçue pour être efficace. Si tu veux texter, il y a un onglet texter. Si tu veux appeler, il y a un onglet appeler. Fait que si tu veux être le premier sur le concours, c'est par l'application que ça va le plus vite. Et on a des concours exclusifs à cette application-là. Donc, aussitôt que vous allez télécharger l'app BLVD dans le Apple Store ou Android Store de votre choix, bien, tout ce qui se passe à BLVD 102.1 est dans votre poche. Puis en plus, on a maintenant des notifications, que tu actives ou pas, mais si tu es actif, souvent, tu vas avoir des petits codes ou des indices et tu vas être le premier sur le concours. Donc, ça s'adresse uniquement aux auditeurs qui ont l'application et qui acceptent les notifications. C'est en collaboration avec Climatisation Paquette jusqu'au 9 décembre. On est le 3. Dans quelques jours, on va pouvoir faire des gagnants, mais on va envoyer un total de 6 indices via les notifications. Jusqu'au 9 décembre, il y a des notifications envoyées. Dépêchez-vous, c'est commencé. Et pour chaque indice reçu, tu vas pouvoir aller t'inscrire dans la section concours du BLVD.fm et tu vas pouvoir inscrire une fois par jour cet indice-là. Tu vas pouvoir gagner une carte de crédit de 500 $ offerte par Climatisation Paquette et ça va être annoncé le gagnant, la gagnante dans Gravel dans le retour le 10 décembre. Alors, au hasard, selon tous ceux qui ont décidé de télécharger l'app BLVD et de récolter les indices. Donc, jusqu'au 10 décembre, dépêche-toi. Climatisation Paquette qui vous offre des produits Mouvair, la marque la plus fiable selon Protégez-vous.
Oh yes! Pascal, je me permets de garder Mathias deux secondes juste pour lui faire entendre ceci.
Oui, là, on a joué de chance parce que c'est un filet complètement ouvert pour Mario. Et c'est lui encore qui a la rondelle. La remet à Sanderson. Le bonheur, parfait! Écoute, on l'a laissé complètement.
Tu veux me faire mal, Jeff.
Et s'amener devant Samuel Montembeau.
Pascal.
Jake Sanderson porte la marque 3-1.
Défaite du Canadien hier 5-2 contre les Sénateurs d'Ottawa. Pascal, je vais laisser Mathias réagir dans quelques instants. Mais là, il faut juste que je t'explique quelque chose, OK? Le Canadien était complètement dominé. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est une équipe physique. C'est une équipe qui gagne ses batailles le long des rampes. Le Canadien est une petite équipe. Ils ont des blessures au centre. Hier, ça l'a tellement paru. Les Sénateurs étaient seuls sur la patinoire hier, Pascal. Ils se sont emparés du Centre Bell comme si c'était leur domicile. Ils ont joué au Centre Bell comme s'ils venaient d'avoir une baisse de taxes de 0,6%. C'est comme s'ils habitaient au centre-ville.
Ouais.
Ils étaient là, présents, ils étaient partout. Mathias Turcotte, t'as-tu vu le même match que moi?
Je tiens à préciser, oui, les Sénateurs est une grosse équipe, mais une équipe qui devrait avoir fini sa reconstruction depuis 5 ans et qui sont pas capables de prendre le step-up.
Ah, regarde, tu vois,
sauf qu'effectivement, hier, ça n'a pas très bien été pour Montréal.
Ça, Pascal, c'est un partisan du Canadien.
Écoute, non, j'ai pas fini la game hier.
T'as fait comme Max Lavoche.
J'ai pas réussi à finir la game. J'ai fermé pour le bien de ma santé mentale, j'ai fermé ça avant.
Bref, le Canadien de Montréal a une chance de se reprendre dès ce soir, Pascal CV, parce qu'ils reçoivent les Jets de Winnipeg au Centre Bell. Les Jets ont 2 victoires et 5 revers depuis la blessure de leur excellent gardien de but, Connor Hellebuck. Donc voilà une chance en or pour le Canadien de se reprendre. C'est Jacob Dobesch qui va être devant le filet. C'était Sam Montembeau hier. Il a encore eu des difficultés, malheureusement, notre Québécois. Après la pause, on parle avec Lambert Drainville. On va revenir sur Mark Miller, ce nouveau ministre de la Culture qui se fout de la langue française. On va bien, hein, Pascal? Mark Carney prend soin de nous autres. Hein? Let's go! La langue française, c'est pas grave, elle n'est pas en détenue au Québec. Puis on va parler d'un dossier super important. Puis là, je suis sûr que ça va t'allumer, Pascal Séville. Le droit à l'avortement.
Oui.
Parce qu'il y a plusieurs juristes qui disent à Simon Jolin Barrette, mets pas ça dans la Constitution, parce que si la Constitution se fait battre, on pourrait perdre ce droit-là. Lambert Drainville veut nous en parler. Ça m'inquiète beaucoup. Puis je suis un homme de 46 ans.
Oui, puis je pense qu'il faut absolument s'en inquiéter ou du moins s'en intéresser parce que récemment, Léa Clermont-Dillon a pris la parole là-dessus en parlant aussi de la montée du masculiniste et des propos masculinistes.
Oui.
Et dans la frange des 25-35 ans, il y a plus de la moitié des hommes qui qualifie les propos d'Andrew Tate comme étant positifs. Alors, il faut quand même toujours travailler en amont sur certaines tendances, et je pense que celle-ci, il ne faut pas y toucher. Qu'on soit biaisé ou pas, selon votre vision des valeurs, on ne touche pas à ça.
Tu as entièrement raison. Donc, c'est ce qui suit à l'instant même à On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1.
On en jase jusqu'à 14 heures. On en